Le domaine des possibles, une émission proposée par Christian Faure.
Amis auditeurs du domaine des possibles, bonjour. La ville de Montpellier cache décidément bien des secrets, bien des lieux inédits, bien des alternatives en somme, alternatives au monde délirant dans lequel on semble vouloir nous entraîner ou dans lequel parfois nous semblons nous laisser entraîner nous-mêmes. Il en est un de ces lieux que j'ai découvert il y a peu et qui m'a tout de suite interpellé. Quand je dis découvert, j'exagère. Je connaissais son existence, mais je ne connaissais pas le lieu physiquement et je ne connaissais pas du tout son fonctionnement. Pour paraphraser un chanteur célèbre, je dirais volontiers que c'est un grand bâtiment accroché au 19 de l'avenue Georges Clémenceau, que l'on y vient seul ou accompagné, qu'on peut y faire son marché et que la clé appartient à ceux qui s'y rendent. Elle est dans l'organisation et elle appartient à... Elle fait partie du tout, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans l'expérience dont on va parler. Je parle bien sûr de la cagette, vous l'aurez compris. Ce magasin, ce self-service, comme on disait quand j'étais jeune. Ce supermarché, doit-on peut-être dire aujourd'hui, coopératif, où chacun de ceux qui souhaitent acheter devient copropriétaire de la coopérative en acquérant des parts sociales et participe en même temps aux travaux de gestion de la boutique. L'idée a germé il y a quelques années déjà dans la tête de quelques jeunes gens associés, passionnés, s'inspirant d'une expérience états-unienne. Je reçois donc aujourd'hui Élie Daviron, un des fondateurs de la cagette, et Charles Gaudron, qui a rejoint le projet plus récemment et qui, très investis tous les deux dans l'aventure, sont venus nous parler de ce projet généreux et enthousiasmant. Bonjour Élie.
Bonjour.
Bonjour Charles.
Bonjour.
Alors, j'ai donc un petit peu présenté votre projet. J'aimerais qu'on en fasse un petit peu l'historique ensemble, que vous nous disiez peut-être un peu d'où vous venez tous les deux personnellement, en deux mots. Et puis après, nous raconter un peu comment cette histoire-là, cette aventure-là s'est mise sur pied, comment elle est née. Je ne sais pas qui veut commencer. Élie, allez.
Allez, j'y vais. Donc moi, je suis Élie, je suis un des actuels salariés et membre fondateur de la coopérative. J'ai rejoint le projet tout début 2015, printemps 2015, quand on commence à se rassembler pour se demander comment on va transposer le modèle de la Louve à Paris, à Montpellier.
Et Charles ?
Alors, moi, je suis à l'origine photographe publicitaire. J'ai fait de la photo publicitaire en région parisienne pendant une bonne vingtaine d'années, y compris pour la grande distribution. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'habite à Montpellier. J'ai entendu parler du projet fin 2015 et je l'ai rejoint en février 2016. Et depuis, je m'occupe de la communication de la cagette.
Oui, c'est un parcours qui, au départ, ne vous amenait pas à tenir un supermarché alimentaire.
Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui tiennent le supermarché à proprement dit. Moi, je m'occupe de... ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir et de parler des alternatives.
D'accord.
Et en grande partie de la nôtre, évidemment.
Et donc, je disais dans mon introduction que le projet, enfin, que les premières idées de ce genre de supermarché venaient des États-Unis. Donc, ça serait intéressant que vous me disiez un mot de ça, de cet exemple dont vous êtes inspiré, je suppose, et comment ça s'est passé des États-Unis à la France.
C'est ça. Si en réalité, tout commence au 19e siècle à Nîmes, avec Fournier, Charles Gide et l'école de la coopérative française, notre modèle, nous, en revanche, s'inspire plutôt de Park Slope Food Co-op, qui est donc une coopérative alimentaire à Brooklyn qui existe depuis 1973. Et qui a été adapté par la Louve depuis maintenant 5 ans dans le projet, et depuis 2 ans et demi
donc
que les portes sont ouvertes.
La Louve, c'est l'équivalent, mais en France et à Paris.
À Paris, c'est ça. Mmh. C'est les premiers à avoir réimporté ce modèle de Park Slope Food Co-op.
Et ça existe depuis quand à Paris ?
Comme j'étais en train de dire, c'est 2 ans et demi que c'est ouvert à peu près, je crois. Et sinon, avant ça, en fait, il y a eu une longue période associative pour rassembler un gros collectif et monter le projet.
Période de gestation,
ouais.
D'accord. Et donc, le projet américain, il existe, lui, depuis très longtemps, si j'ai bien compris. Il a mis longtemps à s'exporter en France.
Je sais pas s'il a mis longtemps à s'exporter.
Depuis quand il existe aux États-Unis?
Il existe depuis 1973. Ça dit oui. Quand les gens ont décidé de l'importer, ça a duré à peu près 5 ans et puis hop, ils ont ouvert leur truc. Je pense pas qu'eux, ils aient eu à un moment donné la volonté non plus d'exporter. Ils ont jamais fait vraiment d'efforts. Aujourd'hui, ils se posent la question. Ils voient le succès que ça a en France. En France, c'est une cinquantaine de projets en ce moment à peu près. Et c'est vrai que du coup, ils se posent la question de savoir s'il n'y a pas un terreau plus fertile en Europe et en particulier en France pour ce type de structure.
Mais finalement, est-ce que c'est la France qui a été le premier pays à reprendre cet exemple-là?
Là, sur le strict modèle de Park Slope, c'est-à-dire un supermarché dont vous êtes propriétaire, réservé à ses seuls membres, lesquels font 3 heures par mois, avec une marge fixe de 20 à 23% en fonction des projets. À ma connaissance, il n'y a que en France pour l'instant et en Belgique que l'expérience a été reproduite ces dernières années.
Ok, donc vous décidez de monter ça à quelques-uns dans les années 2015, si j'ai bien compris, et vous commencez dans une petite rue Montpellier-Rennes avec un tout petit local. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est mis sur pied?
Alors, en 2015, on n'a même pas de local. Hein. On fait des réunions dans des bars, on fait des réunions d'information, on a un petit WordPress, c'est Antonin à l'époque qui s'occupe de la communication. Et après, surtout très vite, en fait, on commence des distributions alimentaires. On squattait le hall d'immeuble du 66 Gambetta pour faire des distributions, au début une fois par mois, et après un petit peu plus rapidement, il me semble, toutes les 2 semaines.
Donc ça se passe sur Internet, en fait?
Ça se passe, oui, sur Internet. On fait une réunion d'organisation par mois, une réunion d'info, une distribution, à peu près. Et après, très rapidement, ils commencent à s'organiser des groupes de travail, un groupe communication, un groupe approvisionnement, un groupe de... Bon,
jusqu'à
toutes sortes de groupes.
Jusqu'à ce que vous décidiez donc d'ouvrir un local où les gens puissent venir...
Jusqu'à l'été 2016, où on trouve ce petit local rue Ballard. Dans lequel on continue d'abord de faire nos distributions jusqu'au début de l'année 2017 où on commence à ouvrir ce qu'on appelle l'épicerie test. Donc là, ça y est, on est en self-service 4 jours par semaine.
Toujours à Ballard? Toujours rue Ballard.
On venait de... Voilà, ça faisait à peu près 6 mois qu'on était installé à Ballard. Sauf que très rapidement, en février 2017, on tombe sur l'offre du Spar en faillite boulevard Clémenceau.
Belle aubaine.
Et à la base, nous, on était plutôt partis sur un projet de 1200 m². L'idée, c'était vraiment un supermarché dans lequel on puisse avoir non seulement toutes les références d'un supermarché, mais enfin, je veux dire, une gamme très large pour des profils très larges, puisque notre objectif, nous, comme on le dit toujours, c'est de permettre à chacun d'améliorer son alimentation, quels que soient ses moyens et ses convictions. Et donc, on peut pas se permettre d'avoir une gamme très restreinte de produits. On n'est pas prescripteur d'alimentation. Hein. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de s'auto-organiser et de faire leur propre choix. Sauf qu'on se rend compte à ce moment-là qu'on va pas avoir... D'abord, qu'on aura du mal à avoir les mêmes financeurs qui ont eu la Louve à Paris, puisqu'ils ont été en grande partie financés par l'ERDI, qui, à ce moment-là, refuse de se prononcer à nouveau.
C'est quoi l'ERDI ?
En gros, c'est un dispositif de la Banque publique d'investissement pour aider à la création de projets. Qui, à ce moment-là, refuse de se prononcer à nouveau sur des projets d'une telle ampleur, tant que la Louve ne sera pas rentable et en fonctionnement, en vitesse de croisière. Du coup, on se dit que de ce côté-là, d'une part, on n'aura pas beaucoup de ressources. Et de l'autre, on se rend bien compte qu'en fait, le projet de Paris, s'il a pu se monter aussi gros et aussi vite, c'est notamment grâce à ses très bonnes relations avec la mairie du 18e arrondissement et le Parti Socialiste local là-bas. Et on se rend bien compte que nous, dans le contexte politique montpelliérain, on n'aura aucun appui de la mairie ou de la métropole. Et ces deux facteurs croisés, on se dit que il faut qu'on saisisse une opportunité. On voit que là, il y a ce 300 m², ça peut être notre prochaine étape. Et du coup, on se lance rapidement, on rassemble les 80 000 euros qu'il fallait pour acheter le bail en une dizaine de jours. On vote d'abord en mars, 18 mars, je crois, la décision de racheter le Spar. En une dizaine de jours, on rassemble ces 80 000 euros.
Vous les rassemblez comment?
C'est une vingtaine de membres à cette époque-là qui
ont financé le truc.
qui ont financé. Tout le monde, de toute façon, a financé le truc, puisque c'est, on est tous actionnaires, en fait. C'est le principe de la coopérative, mais à ce moment-là, il y a effectivement 20-25 personnes qui mettent entre 2000 et 15 000 euros.
C'est ça.
Et qui amènent la première partie du capital, ce qui permet de lancer le tour de table avec les banquiers, d'emprunter 120 000 euros, en gros.
Ah oui.
On emprunte deux fois 40 000 à des banques privées et quand même 40 000 à l'ERDIM, à l'antenne locale. Mmh. En dessous de 50 000 euros, c'est des enveloppes qui n'ont pas besoin de passer par le national pour être débloquées. Et voilà, c'est parti. On commence les travaux en juin 2017. Et le 6 septembre 2017, on ouvre les portes. À ce moment-là, on est 500 coopérateurs. On était 1300 membres dans l'asso, mais... Bah, d'abord, il y a toute une partie qui n'habitait pas au bon endroit, forcément, oui. Ou qui était juste des soutiens, qui ont poussé le projet, mais qui ne souhaitaient pas devenir coopérateur. Et puis, on grandit peu à peu jusqu'à arriver là en août à 1300 membres à peu près. Et aujourd'hui, en février, on est 1250, bientôt 1300. De 2250, bientôt 2300, donc on a recruté un millier de nouveaux coopérateurs ces 6 derniers mois.
C'est une belle évolution, on en parlera tout à l'heure. Donc ce qui serait intéressant, maintenant qu'on voit d'où vient le projet, comment il s'est construit, ce serait que vous nous expliquiez un petit peu comment il fonctionne, mais au niveau de la gouvernance. On verra après comment fonctionne la coopérative elle-même, mais surtout le principe de gouvernance qui est toujours intéressant, la forme juridique que vous avez et son principe de gouvernance. Puisqu'on on parle ici d'alternatives et que c'est toujours intéressant de reparler de ces systèmes de gouvernance-là. Alors, je ne sais pas lequel des deux veut s'y coller.
J'y vais.
Je vous laisse le
je
choix.
Je continue, ok. Ok. La gouvernance. La forme juridique, on est une SAS.
Oui.
De loi 47. On a copié, en fait, par commodité et par... dans une certaine forme d'agilité, de décision rapide, on a copié les statuts de la Louve dans un premier temps, et donc ils étaient organisés en SAS de loi 47, c'est-à-dire Société par Action Simplifiée. La Société par Action Simplifiée, c'est d'un côté l'Assemblée Générale, et de l'autre la Présidence. La Présidence est élue par la Société Générale, et elle a l'ensemble des pouvoirs et des responsabilités du projet. C'est la gestion. La loi 47, c'est que c'est une coopérative, c'est-à-dire que la gestion est désintéressée, c'est à but non lucratif.
Non lucratif, ouais.
Et une personne égale une voix, contrairement à une SAS où un euro égale une voix, si tu veux. Voilà pour la forme juridique. Après, nous, notre gouvernance, qu'on essaye de mettre en place, ça se rapproche de ce qu'on appelle sociocratie, holacratie. Le but de notre gouvernance, c'est de permettre que les décisions soient prises au plus proche possible de l'action.
Ouais.
Qu'une personne qui s'engage sur une tâche, qui prend une responsabilité, en fait, devient autonome par rapport à sa décision. On parlait tout à l'heure de l'Assemblée Générale, qui est l'une présidence. La mission qu'on fixe à la présidence, en fait, c'est de déléguer l'ensemble de ses pouvoirs à des personnes qu'on appelle responsables, de pôle, lesquelles ont pour mission de déléguer l'ensemble de leurs pouvoirs à des responsables de mission, lesquels ont pour mission de déléguer l'ensemble de leurs pouvoirs à des responsables de pôle, et l'idée étant de faire remonter un maximum de gens dans la gestion du magasin. On est donc, je vous disais, 2200. Parmi eux, il y a à peu près une centaine de personnes qui sont investies au-delà de leurs 3 heures toutes les 4 semaines, qui est le socle commun, soit dans des comités, soit ponctuellement pour filer un coup de main, mais le plus souvent qui sont organisés dans un comité ou dans une mission, dans un pôle. Parmi eux, il doit y en avoir une trentaine qui est là presque au moins toutes les semaines, et voire plusieurs fois par semaine.
Oui, c'est pas du plein temps, mais pas loin, ouais.
Et parmi eux, il y a les 6 salariés et je dirais une dizaine de bénévoles à plein temps, quasiment.
Oui.
Mmh. Voilà.
Oui, le principe de sociocratie que tu as évoqué, c'est effectivement un principe... je ne sais pas, tu peux peut-être expliquer en deux mots ce que c'est.
Alors, le principe de sociocratie, c'est donc ce principe de délégation de descendante.
Oui.
Parce qu'on est dans une situation où la responsabilité légale, de toute façon, est entre les mains de la présidence, mais qui est croisée à un principe remontant, qui est que chaque comité dont on parlait, et mission au-dessus et pôle au-dessus, en fait, élit un référent. C'est un système de double lien, la sociocratie, dans laquelle, en fait, on essaye de casser la logique du représentant ou du manager, dans les structures militantes classiques ou dans l'entreprise classique, qui se retrouve à la fois à représenter le collectif au sens large et à la fois sa petite équipe. L'idée, c'est qu'il y ait une personne qui représente le collectif au sens large, le programme qui a été élu pour un an, la présidence qui a été élue pour un an, leur responsable légal, et une autre personne qui soit chargée de représenter l'équipe, ses besoins, son mode de fonctionnement. Et donc ça, c'est la base de la sociocratie. Après, il y a la décision par consentement, il y a des petits artefacts comme ça.
Mais... Oui, voilà. Je crois qu'on peut dire que la sociocratie, c'est un principe de gouvernance qui tend à établir une gouvernance horizontale par rapport aux gouvernances pyramidales auxquelles on est habitué depuis des décennies et qui ont montré leurs limites. C'est intéressant. Vous avez choisi pour illustrer votre propos un morceau de musique qui s'appelle je ne sais plus.
On lâche rien.
On lâche rien par un groupe qui s'appelle Saltimbanque.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Nous sommes aujourd'hui avec Élie et Charles, qui représentent la Cagette, cette structure supermarché alimentaire avenue Georges Clémenceau. On a déjà parlé avec eux de la création de l'entreprise, de sa mise en route. Et j'aimerais qu'on aborde maintenant davantage le fonctionnement. Donc savoir un petit peu comment ça fonctionne entre salariés, adhérents, comment on adhère, comment on devient coopérateur. Alors je ne sais pas lequel des deux veut se lancer dans l'aventure.
Eh ben, je me lance.
Fonctionnement. Alors Charles, vas-y, on t'écoute.
Alors pour devenir coopératrice ou coopérateur, c'est très simple. Il suffit de participer soit à une réunion d'accueil, soit à une visite commentée du magasin, parce qu'on souhaite que toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre soient bien informées sur le projet et sur toutes ces diverses facettes, parce que c'est un projet qui comprend beaucoup d'éléments divers et qui est un projet un peu militant aussi. Donc on tient à ce que tout le monde sache
à quoi on s'engage.
À quoi on s'engage, bien sûr. Le fonctionnement, en fait...
Donc une fois qu'on a visité ou qu'on a assisté à une de ces réunions, on adhère
Tout simplement, alors on n'adhère pas, on devient coopératrice, achète des parts de l'entreprise. Et on devient donc immédiatement coopérateur. Et donc on peut venir faire ses courses dans le magasin et on s'engage à donner 3 heures de son temps consécutif toutes les 4 semaines pour le fonctionnement du magasin.
Oui, donc on a des droits et des obligations.
Comme dans
toute chose, absolument, absolument.
Le terme obligation est pas tout à fait le bon terme, c'est un engagement de participation.
Je comprends. Et alors donc ces 3 heures, on les passe à faire quoi finalement ?
Eh ben alors tout ce qu'il y a à faire pour faire fonctionner un magasin. Ça peut être de la mise en rayon, de la réception de produits, ça peut être du nettoyage, ça peut être tenir les caisses, mais ça peut aussi être faire de la comptabilité.
Gérer les stocks, etc.
Les stocks, enfin il y a des tâches très très diverses et variées.
D'accord. Et d'après ce que j'ai compris, donc Élie disait tout à l'heure que vous étiez aujourd'hui à plus de 2000...
On est presque 2300, oui.
Voilà. Mmh. Et donc ça fait quand même 2300 multiplié par 3, ça fait plein d'heures de travail. Alors est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a des gens qui font plus ou...
Pour l'instant, c'est suffisant dans le sens où la masse de travail augmente avec le nombre de coopérateurs.
Ce qui est logique.
Ça augmente parallèlement. Il faut savoir que le magasin est ouvert de 6h du matin. Je parle pour les personnes qui viennent participer, hein, de 6h du matin à 21h30. Puisque le magasin est ouvert pour faire ses courses de 8h à 21h. Enfin, sauf le lundi où ça n'ouvre qu'à 14h, mais 8h-21h du mardi au samedi. Donc il y a des créneaux horaires de 6h du matin jusqu'à 21h30 pour faire tourner le magasin.
D'accord, oui, donc ça donne la possibilité de
donc
venir...
Donc il y a beaucoup de créneaux de participation.
Oui, parce que bien sûr, il y a du travail, comme dans tout bon magasin qui se respecte, il y a du travail avant, j'imagine, l'ouverture et après l'ouverture.
Mais il y en a, oui, en permanence.
Il y en a en permanence, ouais. Oui, je me doute. Et... Donc 2300 adhérents qui viennent participer aux travaux, alors j'imagine que ça demande à avoir un planning super organisé. Vous avez les salariés aussi, il y a combien de salariés ?
Alors on a actuellement 6 salariés,
oui.
Qui ont des fonctions un peu différentes les uns des autres, mais qui globalement sont animateurs réseau, c'est-à-dire qu'en fait ils sont là pour effectuer le suivi des tâches quotidiennes.
Oui, parce qu'en fait, ça doit être très compliqué d'arriver à gérer 2300 personnes qui viennent de bosser 3 heures par mois. Et j'imagine que le boulot des salariés, finalement, c'est peut-être plus de coordonner tout ça que de...
Alors, l'organisation des créneaux horaires, elle est assez simple parce qu'on a maintenant un outil informatique qui est assez performant pour faire ça. Les groupes de coopérateurs qui coopératrices qui viennent travailler pendant les 3 heures sont constitués de personnes qui le font depuis un moment déjà et d'autres qui arrivent donc les transmissions se font de manière assez naturelle et puis il y a toujours un salarié qui est là pour dire les 2-3 petites choses qui sont en cours.
Bien
et
sûr,
pour aider à cette passation quoi.
Bien sûr. D'accord. Et donc, une fois qu'on a des clients coopérateurs donc, qui achètent et qui gèrent l'aspect pratique de la boutique, j'imagine qu'il faut trouver des produits. Et ces produits, comment vous vous appro- vous, Comment vous vous approvisionnez? Auprès de qui? Comment ça se passe?
Alors, pour situer le principe, c'est, comme l'a dit Élie tout à l'heure, on n'est pas prescripteur alimentaire. Donc, ouais. On trouve dans notre magasin toutes sortes de produits. On y trouve des produits locaux, des produits bio, frais. On y trouve des produits d'épicerie bio et non bio. Donc, on s'approvisionne auprès de fournisseurs locaux et auprès de grossistes.
Oui.
Le choix des produits, il est fait de plusieurs manières. Il y a des comités approvisionnement par type de rayon qui sourcent et qui cherchent des producteurs et des produits. Et nos coopératrices et coopérateurs peuvent remplir des fiches qui sont disponibles soit en magasin, soit sur notre service en ligne, quoi, dans lesquels ils peuvent demander tel ou tel produit, et les gens qui s'occupent du comité vont chercher des produits qui se rapprochent de la demande. Et donc tout simplement, en fait, la rotation des références, elle se fait... Enfin, si un produit se vend, eh ben, on continue à le commander. S'il ne se vend plus, on arrête de le référencer.
Vous avez des critères d'achat, en fait, qui sont... Parce que j'imagine que vous privilégiez les produits bio quand vous les trouvez, mais vous avez aussi des critères de prix, parce que vous ne souhaitez pas que les prix soient trop...
Voilà, alors c'est pour ça qu'on a différentes gammes de produits, parce qu'on veut absolument être accessible à tout le monde, et donc à tous les budgets. On n'est pas là pour dire à qui que ce soit « il faut manger ceci, pas manger cela ». On est là pour que les gens découvrent de nouveaux produits. Donc on essaie toujours de trouver les produits de meilleure qualité et les moins chers, mais le critère prix est important. Donc souvent on a deux produits, un qui est bas prix et l'autre qui est axé sur la qualité, pour pouvoir justement être accessible à toutes et tous.
Ça veut dire qu'en termes de prix, on peut faire son marché à la cagette sans dépenser beaucoup plus d'argent que dans un autre magasin montpelliérain, j'imagine.
Ah bah, a priori, on en dépense même nettement moins.
Plutôt moins.
Puisque la petite étude qui avait été faite... Élie, tu veux dire quelque chose?
Je voulais dire qu'on ne pouvait pas faire de publicité comparative.
Non,
mais que,
non, ce n'est pas du tout mon propos.
Que la dernière fois qu'on regardait les prix, effectivement, c'était plutôt à notre avantage. Sur les légumes bio.
Ouais, mais c'est important de le dire.
C'est vraiment sur le bio qu'on est... Ouais. Très concurrentiel. Après, on a des volumes d'achat qui sont beaucoup plus faibles que la très grande distribution.
Oui.
Du coup, sur des produits de marque nationale non bio, on aura du mal à être un jour, je pense, concurrentiel avec notre modèle.
Oui. Mais c'est important que les gens qui nous écoutent sachent que les gens pourraient imaginer que la façon dont on en parle, on va se retrouver dans un magasin où les choses vont être plutôt chères, alors que ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est important de le dire.
Alors il faut bien comprendre comment on fonctionne. La cagette est une coopérative à but non lucratif.
Ouais.
Nous ne sommes pas là pour
faire du bénéfice.
Pour faire du bénéfice.
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas un jour, et à ce moment-là, on décidera de ce qu'on fera de ses bénéfices.
Mais ce n'est pas le but de la manœuvre.
Mais ce n'est pas l'objectif, et on a aussi un objectif très, très important de fonctionnement, on fonctionne comme ça, c'est la transparence.
Oui.
Et en l'occurrence, sur les prix, on applique, nous, une marge unique, c'est-à-dire c'est la même marge sur tous les produits, qui est de 23%.
Qui
sert à payer nos charges et nos salariés. Fin...
Oui, donc quand vous achetez un produit, vous savez que de toute façon, il sera vendu 23% plus cher.
Voilà.
C'est clair. Ok. C'est intéressant tout ça. Alors je sais pas, on se pose des questions bien sûr quand on vous entend parler de la façon dont vous fonctionnez, et je me dis est-ce que vous avez des problèmes, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles à résoudre, des écueils que vous n'avez pas pu éviter?
Des problèmes on en rencontre tous les jours depuis maintenant 3 ans, et on les prend un par un, on les traite et on passe au suivant. Donc, il n'y a pas en ce moment, je veux dire, de blocage majeur qui pourrait menacer le projet. Des enjeux de développement, il y en a beaucoup. Moi, je pense que l'année prochaine, elle doit vraiment être consacrée à la cagette, maintenant qu'on est rentable là, depuis 3 mois, de se poser la question de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que c'est que la suite? Est-ce qu'on souhaite aider une autre structure à ouvrir quelque chose de similaire? Est-ce qu'on veut déménager dans quelque chose de plus grand? Est-ce qu'on veut filer un coup de main à des agriculteurs pour s'installer? Qu'est-ce que c'est nos perspectives? Maintenant qu'on a l'outil, maintenant qu'on a le point de levier, qu'est-ce qu'on veut faire de ça en 2020, qu'est-ce qu'on veut faire de cette mobilisation et de ce collectif qui fonctionne super bien. Après, sur les enjeux et les choses qui nous restent à faire, il y a toujours le même enjeu qui est d'organiser de plus en plus de gens en essayant de rester dans un fonctionnement le plus horizontal possible, le plus ouvert et le plus intégrateur possible. Ça, c'est exponentiel en fait comme difficulté, donc ouais. Il faut qu'on continue d'y réfléchir et d'y passer du temps. Le développement informatique, c'est un enjeu fondamental pour le projet, ce qu'on appelle les systèmes d'information. Comment est-ce qu'on fait circuler l'information, comment est-ce qu'on maintient la transparence, comment est-ce qu'on noie pas les gens sous une quantité délirante d'informations non plus, puisque plus on est nombreux, plus il y a d'informations à faire circuler et de canaux différents. Et... Donc sur ce côté organisation et système d'information, sur le côté en fait gestion des données, gestion des achats et du stock, ça c'est quelque chose comme n'importe quel acteur de la grande distribution, on a ces défis là. Sauf que on a 50 ans de retard, c'est-à-dire que plusieurs milliards. Nous, on doit développer aujourd'hui un système d'information de commande et de gestion des stocks qui nous permet d'être extrêmement efficace et consistant, avec principalement des moyens bénévoles. Cela dit, on avance,
ouais, c'est ça qui est pas évident.
On avance très vite. Et comme je disais, c'est pas un point de blocage, c'est vraiment un enjeu et ce vers quoi il faut qu'on continue de tendre ces prochaines années si on veut continuer d'augmenter la portée du projet.
Oui, je crois que vous disiez que vous avez une trentaine d'adhésions nouvelles par semaine en ce moment.
En ce moment, oui.
Donc c'est un bon rythme de croisière.
C'est un bon rythme, mais on risque d'arriver bientôt à saturation.
Voilà, le problème c'est ça, c'est que le modèle...
Si vous voulez nous rejoindre, dépêchez-vous, hein, parce que bientôt on va fermer les portes. Hein.
Ok, écoutez, est-ce que j'aimerais savoir si vous avez... S'il y a quelque chose qu'on a oublié, un truc que vous voulez ajouter, Charles voulait nous parler de deux petits projets, je crois.
Oui, deux rendez-vous bientôt. Ouais. Le 28 février, la Cagette et Nature et Progrès organisent une table ronde à la Gerbe 19 rue Chaptal sur les labels et l'agriculture biologique avec une chercheuse du CIRAD, une productrice et une consultante en filière durable, donc entrée libre.
28 février
à 18h30, ça sera sur notre site internet et notre page, surtout notre page Facebook.
Ouais.
Et le 12 mars, nous organisons en partenariat avec Alternatiba à Montpellier la projection d'un film suivi d'un débat. Le film, c'est L'Illusion Verte, qui est un film sur le greenwashing des multinationales, avec donc un débat animé par Co-Science et un chercheur qui viendra aussi nous éclairer de ses lumières suite à ce documentaire.
Voilà, Christian Duprat, le chercheur. Et c'est bien, vous avez parlé du site, c'est quoi le site ?
Alors, pour avoir les informations sur les événements, c'est Facebook, La Cagette 34. Sinon, notre site internet, c'est lacagette-coop.fr.
Super. Eh ben, merci à tous les deux. Bonne route.
Merci à toi.
Et à une prochaine fois. Au revoir. Et au revoir à tous.